Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. En ce début de siècle, la question des femmes et de l'égalité des sexes reste une priorité au niveau mondial. On le cherche toujours et encore, ce pays qui rassemblerait les conditions d'une égalité parfaite entre les femmes et les hommes dans des domaines allant de l'accès à la santé, à l'instruction, à l'emploi, à l'information, les salaires, la transmission du patrimoine, la liberté d'expression et dans la sphère privée, la prise de décision au sein du couple et de la famille ou le partage du travail domestique. Les inégalités entre femmes et hommes touchent même parfois à des aspects vitaux, la survie des unes et des autres pouvant être en jeu. Bien sûr, certaines inégalités se sont progressivement atténuées sous l'effet des mobilisations féministes et des conventions internationales, mais les avancées n'en restent pas moins globalement inabouties et souvent paradoxales, parce qu'ici la parole des femmes se libère, là les conflits intra- ou interétatiques se multiplient, la question des violences sexuelles, qui ne constitue qu'une forme parmi d'autres de violences à l'égard des femmes, est de mieux en mieux mesurée. Les violences sexuelles, un fléau mondial, destructeur pour les victimes, un coût social et sanitaire astronomique, une urgence planétaire. Nos invités, Muriel Salmona, psychiatre et psychotraumatologue, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, directrice d'une étude inédite qui vient d'être publiée sous le titre « Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, enquête nationale auprès des victimes », auteur également du livre noir des violences sexuelles paru aux éditions Dunod. Bonjour Muriel Salmona.
Bonjour.
Et Frédéric Worms, professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du comité consultatif national d'éthique et auteur de plusieurs ouvrages, directeur de la collection Questions de soins aux presses universitaires de France. Bonjour.
Bonjour.
La question des violences sexuelles est une problématique qui n'a commencé d'être prise en compte que relativement récemment, Pékin 1995, c'est-à-dire tout juste 20 ans. À l'occasion de la 4e conférence mondiale sur les femmes, ils sont évoqués pêle-mêle la responsabilité des États qui perpètrent ou tolèrent les actes ou menaces de violence, l'instillation de la peur et de l'insécurité dans la vie des femmes, véritable obstacle à l'instauration de l'égalité ainsi qu'au développement et à la paix, les entraves à la mobilité des femmes et leur accès aux ressources et aux activités essentielle, le coût social, sanitaire, économique. La violence faite aux femmes, l'un des principaux mécanismes sociaux sur lesquels repose la subordination des femmes, et surtout, je reviens sur cet aspect, la violence faite aux femmes, c'est un obstacle à l'instauration de l'égalité ainsi qu'au développement et à la paix. On touche là à l'essentiel, Frédéric Worms.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, je voulais vous remercier de votre invitation, c'est que ce sujet qui peut paraître d'ordre privé, voire intime, qui touche au corps de chacune et aussi de chacun, parce qu'il y a aussi évidemment des effets tout autour, ce sujet privé, vous avez raison de dire qu'il est une urgence mondiale, qu'il est géopolitique, et que c'est en traitant ces violences apparemment intimes, ces effets d'inégalité, ce déploiement d'inégalité dans les relations inter-individuelles, qu'on traite aussi les relations internationales, et c'est en traitant ces violences-là qu'on traitera toutes les autres, en traitant cette inégalité-là qu'on donnera à penser toutes les autres.
Muriel Salmona.
Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et la violence est vraiment un instrument d'inégalité extrêmement important. Et les inégalités ont aussi besoin de la violence pour perdurer. Enfin, c'est un système qui s'auto-entretient totalement. Et lutter contre la violence, c'est effectivement lutter contre les inégalités. Tout comme lutter contre les inégalités, c'est lutter contre la violence. Et les violences sexuelles sont celles qui vont générer le plus d'impact sur les personnes qui les subissent. Et celles qui vont être les plus efficaces, en fait, pour construire un système de soumission, d'emprise et d'infériorisation de l'autre.
Alors, cette étude, Muriel Salmona, qui vient de paraître, elle a donc été initiée par l'association Mémoire Traumatique et Victimologie que vous dirigez. Elle s'intitule « Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, déni de protection, de reconnaissance et de prise en charge ». C'est une enquête inédite, je le disais en introduction, inédite parce que pour la première fois, des questions étaient posées aux victimes et non plus seulement aux professionnels
qui les prennent en charge.
Alors, quelle est l'idée à l'origine de cette étude? Qu'est-ce que finalement vous cherchiez à savoir?
Oui, alors, elle a été initiée il y a tout juste un an. C'était vraiment le point de départ, c'était le 8 mars 2014, dans le cadre d'une campagne que nous avons faite qui s'appelait Stop au déni. Donc on voulait justement œuvrer pour une meilleure reconnaissance par rapport aux violences, tout particulièrement les violences sexuelles. Et c'est vrai que donner la parole aux victimes particulièrement sur non seulement ce qu'elles vivent, les violences qu'elles subissent, mais aussi sur tout ce qui se passe en termes de protection, de prise en charge, de soins. Et ça, ça manque, en fait, cette connaissance auprès des principales intéressées. Et il y avait eu un rapport qui était un rapport du docteur Lebas qui avait dit il faut absolument connaître les parcours de prise en charge et de soins. C'est la condition indispensable pour pouvoir les améliorer, ces parcours. Et ça, moi, en tant que professionnelle, présidente d'association, je savais que c'était des parcours catastrophiques. Donc, on a voulu le savoir. On a mis en ligne donc un questionnaire de plus de 180 questions, avec beaucoup de questions ouvertes. Un questionnaire qui prend au moins 3 heures pour le remplir. Et là, on a vraiment eu une surprise, celle de voir à quel point beaucoup de personnes répondaient à ce questionnaire. C'est-à-dire, on faisait l'effort énorme de répondre à toutes les questions et témoigner de façon très importante sur ce qui leur était arrivé. Ça montrait l'ampleur du besoin de témoigner et l'ampleur de ce qu'on, justement, ce qu'on dénonçait dans le cadre de cette campagne, c'est l'abandon que subissaient les victimes.
Alors, je vais vous mettre en sorte de miroir l'un et l'autre, Muriel Salmona, avec votre étude, et on va y revenir. Et Frédéric Worms, en tant que philosophe, je vais vous demander un tout petit peu de nous aider à prendre de la hauteur. Muriel Salmona évoquait à l'instant la question du déni. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on s'apesantisse quelques instants. Déni, donc, de ces violences sexuelles. Comment expliquer que nous vivions dans une société qui est finalement obsédée par la sexualité et les violences, et qui se caractérise donc par le déni des violences sexuelles? On sent un paradoxe énorme.
Mais peut-être on peut repartir de l'idée même de victime, au fond. Je crois que c'est très important de donner la parole aux victimes pour sortir d'une sorte de tout ou rien, de deux extrêmes, soit précisément le déni de l'importance de ces violences, ou même de leur réalité, parce qu'elles viennent perturber nos représentations. C'est des violences dans des relations qui sont censées être marquées par l'intimité, par l'amour, dans des relations qui semblent contredire. On pense plutôt à des violences avec les autres, à l'extérieur, entre communautés. Aujourd'hui, on est hanté par toute forme de violence politique extérieure. Mais l'idée que la violence est intime peut être très perturbante. Et dans la sexualité elle-même, et dans ce qu'il y a de plus intime, ça révèle aussi des pulsions intérieures à chacun, et il faut aussi en prendre conscience. Donc il y a les sources de ce déni. D'une part, on a du mal. Et d'autre part, il y a des représentations sociales qui font que les victimes, on le sait bien, ont du mal à se penser comme telles. Et aussi, on passe aussi à l'extrême inverse, à l'idée que la victime est purement victime, l'est par essence, n'a rien à dire, ne peut pas être acteur de son histoire. Ce qui me frappe beaucoup au début du rapport, c'est une phrase très forte que je partage entièrement, qui est de dire on n'est pas victime par essence, on est victime en fonction de certains actes. Et il faut donc parler des actes, ce n'est pas non plus incriminer les personnes en tant que telles qui les commettent, c'est plutôt décrire l'acte, ses effets, montrer qu'il y a quelque chose à faire, montrer que c'est possible. Et le déni ne peut être dépassé que si il n'est pas affronté à une parole tout aussi massive que lui, de culpabilisation, de pure morale, mais aussi de choses précises à dire, à faire. Quelles sont les représentations qui s'opposent à la prise en charge? Quelles sont les représentations qui les permettent? Quelles sont les tâches qui vraiment peuvent compenser la violence? Et effectivement, je crois que la seule manière de sortir du déni, c'est le savoir, c'est le discours, la prise en charge également politique, publique, c'est les institutions, c'est un soutien qui ne soit pas simplement une sorte de passage toujours du silence à la compassion, hein, qui est importante, mais qui peut être paralysante.
Alors, le savoir, la connaissance dont parlait à l'instant Frédéric Worms, je me tourne vers vous, Muriel Salmona, justement, ce rapport, il vient éclairer beaucoup de choses. Pour ce qui est des principaux enseignements, bon, d'abord, la proportion de femmes qui, dans leur vie, subissent des violences sexuelles, elle est absolument énorme. Ce que souligne le rapport, c'est que plus de 80% des répondants ont subi leur première violence sexuelle dans l'enfance,
oui,
parfois
avant 18 ans, oui.
Très tôt. Et le viol qui hante l'imaginaire collectif et celui perpétré sur une jeune femme par un inconnu armé dans une ruelle sombre ou un parking, ça n'est pas représentatif de la réalité. Dans la majorité des cas, les victimes sont des enfants et les agresseurs des proches.
Oui, donc ça, c'est frappant. On le savait, mais là, on a encore une représentation encore plus précise, une photographie encore plus précise. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu le soutien de l'UNICEF dans le cadre de sa campagne End Violence. C'est que vraiment, les enfants sont les premières victimes. Donc, 81% avant 18 ans, 51% avant 11 ans et 21% avant 6 ans. Ce sont des chiffres qui sont accablants et effectivement essentiellement par des proches. Et quand il s'agit de mineurs, c'est plus de 90% de proches. Quand il s'agit de l'ensemble des victimes, c'est plus de 80% de proches. Et c'est essentiellement pour les mineurs dans la famille et pour les majeurs, c'est dans le couple. Donc c'est les espaces qui sont censés être les plus protecteurs, qui sont les plus dangereux dans le cadre de délits ou de crimes que sont les violences sexuelles. Les personnes qui ont répondu au questionnaire, en fait, ce sont essentiellement des personnes qui ont subi des agressions sexuelles et des viols. Parce qu'il y a d'autres formes aussi de violences sexuelles. Et c'est à près de 70% des viols. Donc ce sont des crimes. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que plus les crimes sont commis sur des personnes jeunes, très jeunes, moins de 6 ans, plus c'est dans la famille, donc des violences sexuelles incestueuses, et plus ce sont effectivement des viols, plus l'impact et les conséquences vont être extrêmement lourds. Donc c'est très très corrélé. Donc c'est les personnes qui devraient être les plus protégées, qui sont les plus exposés, justement, dans les espaces où elles devraient être en situation d'être aimées, d'être accompagnées. Et ça, c'est vraiment un élément qui participe au déni. C'est qu'on ne veut pas voir que ces espaces dits protecteurs ne le sont pas.
Alors, justement, et Frédéric Vorm, je me tourne vers vous. Il y a, on vit dans une société qui a tendance à idéaliser la famille, idéaliser la fonction parentale. Est-ce que là, quelque chose est en train de changer? Il y a moins d'opacité et peut-être plus de perméabilité aujourd'hui entre le cercle intérieur et puis la violence extérieure, ou en tout cas en dehors des cercles les plus intimes. Les frontières sont en train de bouger, Frédéric Worms?
Moi, je crois qu'on a raison de penser que la relation parentale est fondamentale. Et je pense même que les violences dans le couple ou dans la famille, bien loin de contester l'importance de la famille, la renforce et nous montre sa complexité, toutes ses dimensions. Quelles sont les représentations qui sont à l'œuvre pour que de tels actes soient possibles, pour qu'un parent commette une violence sexuelle sur son enfant? C'est ce petit mot, son enfant d'ailleurs, qui est intéressant. C'est que c'est l'idée qu'il n'y a pas là une agression sur quelqu'un d'extérieur. Vous parliez d'une violence dans un parking, là il y a un sentiment de transgression tout de suite, il faut une arme, ça vient du dehors. Or là, il y a l'idée que on voit l'enfant comme un enfant, un être mineur, un être qui nous appartient en quelque sorte, et on méconnaît qu'il n'est pas seulement un corps, qu'il est aussi un psychisme, et qu'il est aussi une liberté déjà, et qu'au fond, ce que la violence sexuelle nous apprend quand elle a lieu, c'est que tous les êtres humains ont plusieurs dimensions, sont évidemment des organismes sexués, sont aussi des sujets qui vont être affectés, qui ont besoin de la relation à autrui pour se construire, et quand elle vient de l'intérieur les trahir, évidemment, ils vont être brisés dans leur individualité même. Ils sont pas seulement atteints dans leur corps, ils sont atteints dans leur conscience. Et puis aussi, ce sont des sujets libres, dont le consentement est une fonction fondamentale. Et ça vaut surtout entre adultes. On peut violer une femme, même sa femme, si elle n'est pas d'accord. La relation sexuelle humaine complète n'est pas seulement un acte physique, n'est pas seulement un désir psychique, mais est aussi une relation entre êtres libres, entre sujets moraux, et déjà politique. C'est pour ça que je pense que cette représentation de l'égalité va toucher très loin, c'est-à-dire comment comprendre que chacun est un être libre et que même l'enfant confié aux parents pour le soin, dont cette confiance et cette délégation, cette tutelle provisoire jusqu'à la majorité, n'est pas une propriété, c'est la tutelle d'un être libre qui deviendra libre à son tour et qui doit déjà être considéré comme un sujet de droit. C'est ça les représentations profondes qu'il y a derrière. Et donc je crois que dénoncer les violences sexuelles, ça n'est pas nier la famille, c'est plutôt au contraire en voir toutes les dimensions, voir que la relation humaine complète est déjà une relation morale dès le début, avec un nourrisson jusqu'avec un vieillard. Et évidemment, les conditions physiques, un bébé, un vieillard, un corps plus faible, semblent contester cette égalité. Le problème de l'égalité, c'est toujours qu'elle a une part d'abstraction. Parce qu'en fait, on est différent. Et donc, il y a une sorte de violence de la situation qui peut réveiller des pulsions. Il y a aussi des pulsions très profondes de violence à l'égard des plus faibles. Et donc, il faut un effort moral, mais en même temps, qui nous révèle une dimension profonde. Et le bonheur est à cette condition. C'est ça que je voudrais souligner. C'est que respecter la liberté de l'autre dans les actes sexuels, respecter dans l'enfant un être psychique qui se construit par la relation, et en même temps déjà un citoyen, c'est pas contradictoire avec le bonheur familial. Au contraire, C'est évidemment la condition de repas de famille heureux, de discussion, de sortie, de partage de la vie. Donc il faudrait vraiment insister sur l'idée que, dans leur côté effrayant, les violences sexuelles, là aussi, sont source d'un savoir. Elles nous apprennent ce que nous sommes vraiment et de quoi nous avons besoin pour être heureux. Et c'est aussi ce bonheur privé, une condition du bonheur public.
Un commentaire peut-être, Muriel
oui,
Salmenas,
oui,
on peut dire Frédéric Worms.
Oui, c'est aussi la connaissance de la réalité des violences sexuelles démontre que ces violences sexuelles s'exercent dans des conditions d'inégalité de droit de façon très importante et sur des personnes les plus vulnérables, que ce soit les enfants, mais que ce soit aussi les personnes handicapées, où on voit 4 fois plus de violences sexuelles sur les personnes handicapées. Donc c'est bien cette égalité de droit qui est vraiment essentielle, et à l'intérieur justement de structures comme la famille, des structures essentielles comme le couple, les inégalités de droit sont absolument indispensable pour effectivement que ne se produisent pas des violences. Et on se retrouve avec un paradoxe où la famille a été très hiérarchisée, le couple a été hiérarchisé avec des inégalités sous la mystification en quelque sorte que ces inégalités, ces privilèges qui étaient accordés à certains, aux parents par rapport aux enfants, aux hommes par rapport aux femmes, c'était des privilèges qui servaient à les protéger. Le dominant en fait avait cette fonction de protection. Et on voit que c'est tout l'inverse. Plus il y a d'inégalités, plus il y a de violences. Plus il y a justement cette situation de domination, plus le risque est très très important. Donc plus il y a au contraire d'égalité de droit, moins il y a de violence.
Et est-ce qu'il faut voir là la fin, ou en tout cas un appel à un changement de nos sociétés patriarcales ? Est-ce qu'elles sont fragilisées, Frédéric Worms, ces sociétés où l'homme est tout puissant?
Oui, je crois qu'effectivement, c'est pour ça qu'il faut tout le temps y revenir. C'est parce que le patriarcat n'est pas une institution archaïque réservée à des pays ou des cultures qui l'auraient par essence, et il n'est pas non plus disparu dans des pays qui s'en seraient déjà débarrassés une fois pour toutes. Et je crois qu'aucune culture ne doit avoir peur de critiquer les violences sexuelles. Ça ne menace pas les relations ni les traditions. Et je crois que toutes les traditions culturelles, religieuses, peuvent admettre cette égalité démocratique. Ça n'est pas une invention occidentale, et la preuve, c'est que même en Occident, effectivement, le risque revient de manière structurelle. Je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit, c'est que au fond, c'est un risque interne à toute dépendance, à toute... Il faut reconnaître qu'il y a une dépendance, que les nourrissons ont besoin de soins, qu'il y a une sorte de différentiel physique, que les malades sont plus fragiles que les médecins. Heureusement, d'ailleurs, si tout le monde était malade, personne ne pourrait soigner. Et le problème, c'est qu'il faut aussi mesurer que la violence est 2 fois plus grande quand elle s'exerce dans la relation de soins ou de protection ou de famille. Si on reçoit un coup, c'est toujours une violence d'un autre être humain. Mais si on reçoit un coup de la personne qui est censée les éviter pour nous, qui est censé nous protéger, c'est une violence, une trahison de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est reconnu dans la loi française, la notion de maltraitance, sur laquelle on reviendra peut-être. La notion de maltraitance est une notion très précise. C'est un mauvais traitement de la part d'une personne qui a une fonction de soin. Et dans la loi française, il y a même eu des procès sur des gardiens de prison. Pourquoi ? Parce que le gardien de prison, en fait, doit prendre soin de celui qu'il garde. Et donc, je crois qu'il faut revenir dans l'idée que la famille, il y a des inégalités de fait, des différences en tout cas, et des relations dissymétriques, comme on pourrait dire. Un professeur en sait un peu plus qu'un élève, un médecin un peu plus compétent que le malade sur la maladie, un parent est provisoirement doit faire quelque chose pour le bien de l'enfant. Mais sur le fond d'une égalité de droit, c'est le problème des relations humaines en général. Ça n'est pas une sorte de vision démocratique abstraite contre la vision culturelle, familiale, concrète. Au fond, je crois que c'est un progrès pour tout le monde, et une rencontre avec le concret aussi. C'est pour ça qu'il faut parler pas seulement d'égalité en général, mais à travers des sujets comme ceux-là, la violence sexuelle la plus intime parfois.
Alors,
pour penser la liberté.
Je ne vais pas vous poser la question maintenant, Muriel Salmenas, sur l'impact très lourd sur la vie des victimes, parce que la première partie de l'émission arrive à son terme, mais peut-être une réaction à ce que vient de dire Frédéric Worms sur la notion de maltraitance et la question que je posais sur la société patriarcale, très rapidement.
Oui, effectivement, cette maltraitance qui s'exerce sur des personnes qui sont en situation de dépendance par rapport à des soins aggrave d'autant plus l'impact, effectivement, et ça, on le voit, et comme vous le disiez, la loi est là pour le reconnaître, mais ça correspond à une réalité dans le cadre de l'impact sur vraiment la santé, qu'elle soit la santé mentale ou que ce soit la santé physique, et sur la qualité de vie des personnes qui subissent ces violences.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Muriel Salmona et Frédéric Worms dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, les violences sexuelles, un fléau mondial, une urgence sanitaire et sociale. Nous retrouvons nos invités. Muriel Salmona, psychiatre et psychotraumatologue, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, directrice d'une étude qui vient d'être publiée sous le titre « Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, enquête nationale auprès des victimes » et auteur du livre noir des violences sexuelles. Et Frédéric Worms, professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du comité consultatif national d'éthique, auteur de plusieurs ouvrages et directeur de la collection Questions de soins aux presses universitaires de France. Muriel Salmona, donc cette étude Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, l'impact sur la vie des victimes de ces violences sexuelles, il est énorme et les conséquences sont très graves sur la santé des victimes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect des choses ?
Oui, alors l'impact, là, quand on voit les résultats de l'étude, et ça correspond tout à fait à toutes les études aussi internationales qui ont été faites, avoir subi des violences, particulièrement des violences sexuelles, particulièrement dans l'enfance, c'est le déterminant principal de la santé, même 50 ans après. Donc c'est un impact à court, moyen et long terme, très important. Là, ce qu'il faut aussi dès maintenant relever, c'est que cet impact-là, il est aussi important uniquement parce qu'il n'y a pas de prise en charge. C'est-à-dire qu'une prise en charge précoce permettrait de l'éviter. Donc c'est pour ça qu'on se bat d'autant plus. Mais sinon, l'impact sur la santé mentale est très important, puisqu'on a 95% des victimes qui, donc à distance des violences, ont une souffrance avec des risques suicidaires, 42% qui ont fait déjà au moins une tentative de suicide. Et comme toujours, plus il s'agit d'un viol, plus il s'agit d'un enfant, plus il s'agit d'une situation de violence sexuelle qui a été commise au sein de la famille ou du couple, plus les impacts vont être importants. Les impacts s'organise en fait autour d'une mémoire traumatique qui va faire revivre les violences continuellement à l'identique et qui va générer une détresse et un stress qui peut durer toute la vie jusqu'à un grand âge et qui va entraîner des souffrances mentales mais aussi un état de stress tel que ça va avoir aussi des répercussions sur la santé physique. Il peut y avoir une perte jusqu'à une perte de 20 ans d'espérance de vie, et c'est aussi un facteur de risque très important au niveau cardiovasculaire, au niveau immunitaire, au niveau digestif, enfin c'est vraiment toute la santé qui peut être impactée, donc c'est un problème de santé publique majeur. Et ça c'est reconnu internationalement, l'OMS le reconnaît. Mais en France...
Justement, quelle explication trouver au fait que cette question et la place qu'elle a?
Alors en France,
nous en soyons là où nous sommes.
Oui, alors en France, de façon complètement inconcevable, alors qu'on a tous les outils, on a toutes les connaissances, les professionnels de la santé ne sont toujours pas formés, ni en initial, ni en continu. Il n'y a pas de formation à la psychotraumatologie en France. Donc c'est pour ça qu'on s'élève. Voilà. Et il y a vraiment un déni des conséquences des violences. Donc les seules violences qu'on a reconnues depuis ces dernières décennies, c'était par rapport à la guerre, avec la mise en place de prises en charge ou les cellules d'urgence médico-psychologique dans le cadre des attentats ou des situations comme ça extrêmes. Mais pour tout ce qui est violence individuelle, là, il y a une vraie difficulté pour les professionnels de la santé à prendre en compte la réalité de la gravité de ces conséquences. Il y a une tolérance à la fois sur les violences et un déni de leurs conséquences qui va avec, en fait, qui s'auto-entretient. Et c'est vrai que les médecins ont eu de grandes difficultés aussi à prendre en compte ce que disaient les victimes ou les personnes qui étaient malades, ne serait-ce que par exemple pour la douleur. Vraiment une vraie difficulté à évaluer la douleur, parce qu'on n'écoutait pas les personnes. Une vraie difficulté à évaluer la détresse. Et puis, il y a aussi le fait que c'était pas considéré vraiment comme de la médecine. Or, maintenant, on a tous les éléments qui démontrent que c'est des atteintes psychologiques. Il n'y a pas d'un côté le corps et d'un côté la psyché. Ça fait un tout. Et il y a des atteintes neurologiques que l'on connaît très bien, des atteintes des circuits émotionnels, de la mémoire, avec des mécanismes neurophysiologiques qu'on peut parfaitement comprendre. Et c'est vrai que quand on forme les médecins, d'un seul coup, ils s'aperçoivent que ça les concerne. Donc il faut les mobiliser. Ils sont en première ligne pour dépister, pour prendre en charge et pour donner des soins. Donc c'est ça qu'il faut faire passer et qui est vraiment une offre de soins digne de ce nom. Sinon, on est dans un scandale de santé publique.
Alors, Frédéric Worms, cette question, cette notion de reconnaissance, elle est fondamentale. Reconnaissance de la violence et puis reconnaissance des impacts de cette violence sexuelle sur le psyché qu'évoquait à l'instant Muriel Salmona.
Exactement, je pense aussi que je suis très frappé, moi, par le lien entre deux choses qui, donc, sont aussi l'objet aujourd'hui d'un double progrès et qui doivent encore être augmentées par une double prise de conscience. Il y a la reconnaissance morale et politique qui fait qu'on doit pouvoir parler de ces choses-là, les reconnaître dans leur dimension de violence, de destruction psychique, de violation morale, de contestation d'une liberté, d'une égalité. Mais il y a aussi la reconnaissance, comme vous dites, et la prise de conscience que c'est très concret. Et j'ai été très frappé, moi, non seulement par l'expression « les violences sexuelles sont un problème de santé publique », mais aussi qu'elles ont des effets très visibles, corporels, dans le cerveau, par exemple. Que les scanners du cerveau peuvent montrer quelles aires du cerveau clignotent, si on a été ou non victime de violences sexuelles, quand reviennent après des expériences traumatiques. Donc c'est absolument concret. Et un autre point qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on peut agir et qu'il faut agir très vite. Dans les 24 heures. Donc il y a à la fois une dimension sur toute la vie et une dimension d'urgence qui veut dire aussi très concrètement qu'on peut faire quelque chose. Vous pouvez en parler et vous pouvez être soigné. Ce qui veut dire aussi qu'on peut faire progresser les choses dans les deux sens et que ce progrès ponctuel-là sera aussi un progrès tout à fait général. Je pense que aujourd'hui on oppose parfois le physique et le psychique. Il y a des gens qui disent on parle trop de victimes et puis on en a marre des psys, des psychologues, etc. Et en même temps, là, voir que c'est effectivement une prise en charge très concrète dont les médecins peuvent prendre conscience et ensuite les différentes dimensions psychiques vont prendre le relais. Il y a l'urgence, il y a l'accompagnement tout au long de la vie qui permettent de reconstruire une vie et dans chaque société blessée, soit par des conflits très violents, soit par des violences cachées, sourdes, comme ça, derrière une apparence de paix civile. Je pense que c'est cette dimension très concrète et en même temps morale et psychique, lutter contre les obstacles dans le discours, mais aussi les promouvoir les pratiques très concrètes de soins, c'est comme ça dans toutes les dimensions finalement qu'on pourra faire progresser la société sans croire qu'on arrivera à une non-violence absolue, mais c'est par des petits progrès majeurs comme ça qu'on fera avancer l'ensemble.
Alors Muriel Salmona, vous évoquiez précédemment la notion de violence et de guerre. On pense au viol qui est une véritable arme de guerre. Était présent à un colloque organisé donc au Sénat le docteur Alimetti qui travaille à l'hôpital Panzi en République démocratique du Congo, pays qui a connu une guerre civile terrible et où la question des violences sexuelles est très prégnante. Votre enquête Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, elle concerne les violence en France. On a entendu le docteur Alimetti se dire tout de même très effaré de ce qu'il a entendu, se pensant à Paris, capitale de la France, dans un pays civilisé.
Oui, il a été à la fois extrêmement surpris par les chiffres, puisque les chiffres qui sont donnés, par exemple pour le viol, qui sont 86 000 femmes violées par an, 16 000 hommes violés par an, mais c'est, en croisant les chiffres, au moins plus de 120 000 filles violées par an, mineures, et plus de 30 000 garçons violés par an mineurs. Et ça, il en a pas cru ses oreilles, en quelque sorte, parce qu'il pensait que dans un pays en paix, il comprenait pas ces chiffres-là, qui sont comme des chiffres de guerre, effectivement, intérieurs. Et puis aussi, il a été très surpris par l'absence de prise en charge. Ça l'a frappé, alors que eux, ils sont en train de se battre, de mettre en place des petits Panzi, comme il dit. Donc, il essaye d'essaimer dans toute la RDC des hôpitaux pour prendre en charge le plus tôt possible. Et d'ailleurs, il était frappé de comprendre enfin pourquoi, effectivement, quand il recevait très tôt des victimes de violences sexuelles, elles allaient mieux, elles se réinséraient mieux. Et en fait, il a compris que la prise en charge précoce traitait cette fameuse mémoire traumatique et allait voir avoir beaucoup moins d'impact ensuite à moyen et à long terme. En fait, lui, il attendait beaucoup de nous. Alors, on va lui donner beaucoup en termes de prise en charge en psychotraumatologie, parce que ça, ils en ont besoin. Mais il s'est rendu compte que ce qu'on va lui donner, il faut qu'on le donne aussi à la France. C'est-à-dire que c'est nécessaire de développer toute cette prise en charge. Et la convention, d'ailleurs, du Conseil de l'Europe, la dite convention d'Istanbul, qui est contraignante, exige la mise en place de centres de soins accessibles avec des professionnels formés. C'est une nécessité absolue.
Convention d'Istanbul que la France a signée, ratifiée. Donc il y a une mise en place qui se fait lentement, c'est cela que vous soulignez, Maëlle Samena.
Mais il ne faut pas qu'elle soit lente. Là, il y a une urgence. Il ne faut pas attendre que les professionnels soient vraiment sensibilisés, formés. Il faut d'urgence créer des centres qui soient vraiment accessibles, visibles pour toutes les victimes. Elles en ont besoin maintenant. Et le soin, non seulement il est essentiel immédiatement, dans les 12 à 24 heures, parce qu'il évite la mise en place de la mémoire traumatique, au-delà, il va y avoir une mémoire traumatique, mais la mémoire traumatique, elle se traite. Donc plus on va attendre, plus ça va être un peu long à traiter, mais le traitement, il peut se faire même 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans après. J'ai des patientes qui ont plus de 80 ans, 90 ans. Et toutes ces personnes-là, elles sont en attente, c'est-à-dire elles sont dans une souffrance extrêmement importante, et il faut pas les abandonner, il faut faire quelque chose. Donc on a été reçus à l'Élysée, on espère qu'il va y avoir une réponse politique à cette situation d'urgence.
Et ce que j'ai particulièrement relevé à l'occasion de ce colloque, c'est cette sorte d'appel finalement lancé aux professionnels du soin quand des patients arrivent, et pour expliquer justement tout l'impact et les pathologies qui se développent sur la base de ces violences sexuelles, c'est de poser très vite la question des violences qui finalement s'avèrent être au centre d'énormément de choses, Frédéric Worms.
Exactement, moi je pense que les bourreaux nous apprennent toujours beaucoup sur la nature humaine. Si on veut comprendre la nature humaine, il suffit de voir comment certains s'arrangent pour la détruire, parce qu'ils sont, ce sont des connaisseurs, en réalité. Et si dans toutes les guerres, dans toutes les génocides, dans toutes les violences ethniques, politiques, ça passe par le viol, ça montre bien que non seulement la violence conduit au viol, mais que le viol est d'une certaine manière le cœur, le symbole de toutes les violences, et que toute violence est au fond un viol, c'est-à-dire une rupture d'une relation intime entre les hommes qui vise à la rendre impossible, et qui d'ailleurs réussit, puisque effectivement une femme violée perd une certaine dimension de la relation sexuelle, de l'amour, donc d'elle-même. Donc c'est une destruction absolument radicale, peut-être autre que la mort, mais peut-être pas moindre, et peut-être même pire que la mort. Et donc il y a quelque chose, au fond, dans le pire que la mort, qui nous oblige à faire plus que le bien, c'est-à-dire plus que sauver la vie, et comprendre que nommer ce type de violence, instituer des lieux qui portent cette prise en charge, n'est pas un luxe dans les pays en guerre, d'une part, et c'est même héroïque de leur part, évidemment, mais d'autre part, est une nécessité dans nos pays, parce que nommer ces violences-là permettra d'affronter toutes les autres. Donc on ne doit pas avoir ce mouvement de recul. Derrière le déni, il y a l'effroi aussi. Avoir dans chacune de nos villes un centre pour les violences sexuelles, on n'a pas envie de voir ça. Mais en même temps, c'est justement en les voyant, en les nommant, que non seulement on évitera ces violences-là, mais on ne peut les éviter qu'en les affrontant, et que, évidemment, je crois, ce sont des violences qui concentrent toutes les autres et permettent de lutter contre toutes les autres. C'est donc vraiment très important de les instituer comme telles. Je pense que l'espace public est la seule manière de coexister ensemble.
Alors, on évoquait précédemment cette surprise donc du docteur Alumetti. C'est vrai que parfois, on a un peu tendance à stigmatiser ces violences, peut-être le reflet davantage des situations des pays du Sud que des pays du Nord. En tout cas, moi, ce que j'ai lu en préparation de cette émission, c'est que finalement, les pays occidentaux à haut revenu, je me tourne vers vous, Muriel Sarmona, enregistre des niveaux de violence sexuelle plus élevés que les autres. Alors, ça peut peut-être tenir aux possibilités de déclarer, faites aux femmes, et puis aussi aux instruments de mesure de meilleure qualité, peut-être au nord qu'au sud, ce qui veut dire que les chiffres sont plus importants au nord qu'au sud. En tout cas, ça révèle là aussi quelque chose.
Oui, tout à fait. Effectivement, les instruments de mesure, si on prend uniquement les dépôts de plainte, on est très en deçà, avec une sous-estimation hyper importante de ces violences-là, puisqu'on sait que, par exemple, en France, c'est moins de 10% des victimes qui portent plainte. parce qu'elles sont soumises à une loi du silence, à en fait une situation où elles sont exclues, leur parole est exclue, hein, parce que c'est pas qu'elles ne parlent pas, mais c'est qu'elles sont pas entendues. Et puis avec le risque d'une maltraitance, ça on le voit dans aussi le questionnaire, à quel point les procédures judiciaires sont maltraitantes, et ça c'est aussi assez répandu malheureusement. Donc en fait, il faut absolument sortir de cette loi du silence, sortir de ce déni, mais partout. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument faire des enquêtes, il faut aller rechercher toutes les victimes, et c'est pas facile. Donc il faut avoir ces chiffres, il faut communiquer sur ces chiffres, absolument. Il faut informer les victimes. Enfin, une des premières choses qu'on a comme retour, aussitôt qu'on fait des campagnes, aussitôt qu'on fait des vidéos, c'est « enfin, j'ai pu me reconnaître, j'existe, et ma souffrance est reconnue, et mes symptômes, en fait, ce n'est pas moi qui les fabrique, ils sont bien liés à une violence donnée, et que ça change tout. » Donc les campagnes d'information aussi sont absolument nécessaires. On a toutes les connaissances qu'il faut, mais on n'informe pas les gens qui peuvent être traités. Comment ils vont faire ? Et leur dire qu'on peut faire quelque chose pour elles. C'est-à-dire que c'est pas fichu, hein, parce que ça, c'est le viol, c'est pour ça qu'il est utilisé comme arme de guerre, parce que, d'une certaine manière, après, on renvoie, voilà, cette personne qui a été violée, elle est un peu morte-vivante, quoi. Elle est là, dans la société, mais elle va faire horreur à tout le monde, elle va plus pouvoir être intégrée. C'est de ce fait que le docteur Désiré Alumetti se rendait bien compte que, pour pouvoir réinsérer ces personnes, il fallait absolument les soigner et que les soins chirurgicaux immédiats n'étaient absolument pas suffisants. C'est-à-dire qu'il fallait les décoloniser aussi de la violence des agresseurs, de la volonté, de l'intentionnalité de destruction. Parce que le viol, c'est bien entendu pas de la sexualité, c'est de la destruction. C'est vouloir vraiment coloniser le corps de l'autre pour que ce corps ne lui appartienne plus et que cette personne ne puisse plus vivre sa propre vie, mais qu'elle soit vraiment... en fait, porteur continuellement de l'agresseur qui continue à lui renvoyer qu'elle n'est rien, que son corps ne lui appartient pas, qu'elle n'a aucun droit.
Alors, volonté destructrice, délibérée ou inconsciente, point d'interrogation, c'est peut-être vers vous que je dois me tourner, Frédéric Worms. En tout cas, est-ce que, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, vous sentez l'un et l'autre une volonté politique pour changer les comportements, Frédéric Worms?
Moi, je crois vraiment que la volonté politique doit se tourner vers le soin comme réparateur et comme reconstructeur. En fait, il n'y a pas d'alternative. Tout le reste doit s'y intégrer, que par exemple les politiques de sécurité, les politiques de justice doivent être comprises comme des politiques au service des sujets, des individus qui ensuite vivent leur vie, construisent la société. Donc, je crois qu'il y a une résistance parce que on veut des objectifs plus nobles, en apparence, on veut le progrès, on veut le bonheur, mais ça passe d'abord par cette étape apparemment négative, mais en fait positive de reconstruction. Il ne faut pas avoir peur de savoir. Mmh. Ça va engendrer des pathologies, peut-être des déclarations un peu imaginaires, peut-être aussi une intrusion, puisque ça veut dire, d'une certaine façon, que le geste minimal de harcèlement, poser sa main sur une partie sexuelle d'une femme à côté de soi, est déjà une violence extrême. C'est gênant, mais en même temps, c'est la condition, encore une fois, pour construire une société qui ensuite va se déployer librement. Il ne faut pas du tout y voir l'intrusion, une sorte de maternage généralisé, de soins généralisés. C'est une condition de la justice, de l'égalité et du bonheur. Il faut y insister beaucoup, à mon avis.
Oui, oui, tout à fait, c'est une condition du bonheur. Et puis, là, je veux vraiment le rappeler, le soin fonctionne. C'est-à-dire, il y a une neurogénèse, le cerveau est bien fait, un peu comme pour les fractures. Le tissu neurologique se répare, mais encore faut-il effectivement donner les conditions aux personnes qui ont subi ces violences d'être réparées. Et puis, dernière chose, soigner les victimes, c'est leur donner la valeur qu'elles doivent avoir, c'est aussi respecter leurs droits, et c'est aussi donner un signal fort sur le fait qu'elles ont de la valeur, qu'on n'a pas le droit d'avoir exercé ces violences, et du coup elles vont aussi subir moins de violences. Enfin, je veux dire, on fonctionne sur un système qui va engendrer moins de violences, moins de répétitions. Laisser des personnes aussi exercer des violences, c'est grave. Je veux dire, parce que ils vont continuer à être violents. Enfin, vous voyez, il faut vraiment aussi travailler autour de l'impunité qui existe actuellement, puisque on a parlé de 10%, moins de 10% de plaintes, mais c'est 1,5% seulement de condamnations. Donc on a un énorme travail à faire. Et là aussi, les conséquences psychotraumatiques sont absolument nécessaire. Il faut qu'elle soit connue par aussi la justice, la police, parce que sinon ils passent à côté des victimes, ils n'entendent pas, enfin ils ne reconnaissent pas la parole des victimes en termes de preuves, parce que justement ils ont cette méconnaissance totale. Donc c'est toute la société qui peut bénéficier de ces connaissances.
Donc il y a beaucoup de travail, mais la barre peut être redressée. Oui. C'est cela que j'entends. Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Muriel Salmona, psychiatre et psychotraumatologue, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, directrice de cette étude, donc inédite, et qui vient d'être publiée sous le titre « Impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, enquête nationale auprès des victimes ». Muriel Salmona, qui est également l'auteur du livre noir des violences sexuelles, le paru aux éditions Dunod, et Frédéric Worms, professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du comité consultatif national d'éthique, auteur également de plusieurs ouvrages et directeur de la collection « Questions de soins » aux Presses universitaires de France. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte, avec la contribution de la documentation. À très bientôt.